Matin Famille se poursuit avec vous sur les ondes médias. Merci à vous de votre fidélité. Ce matin, on parle également de l'angine de poitrine. Alors, on n'en parle pas assez. Et pourtant, l'angine de poitrine survient souvent pendant un effort ou un stress, une maladie favorisée par les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, on tente de comprendre donc cette maladie avec professeur Chalfou Mahamadou. Bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, vous êtes résident en cardiologie. Merci beaucoup de répondre une nouvelle fois présent à notre invitation sur Médien.
Merci à vous.
Pour tenter de comprendre, professeur Chalfou Mahamadou, alors d'abord, l'angine de poitrine, c'est quoi?
Donc, pour ce qui est de l'angine de poitrine, c'est une douleur, en fait, qui est ressentie par le patient au niveau de sa poitrine et qui traduit la souffrance du muscle cardiaque lorsqu'il est privé d'oxygène. Et c'est une manifestation de la maladie coronarienne. Elle regroupe cinq entités qui vont de la forme à la mort subite en passant par l'infarctus du myocarde.
Quelles peuvent en être les causes, docteur Chalfou Mahamadou?
Pour ce qui est des causes, elles sont nombreuses, mais là, dans 90% des cas, c'est lié en fait à un dépôt des graisses sur ce conduit, donc de ce vaisseau qui irrigue le cœur. Et ce dépôt des graisses, il survient sous l'influence en fait des facteurs de risque cardiovasculaire, comme notamment l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme. Ce dépôt de graisse, il va former une plaque. Donc, cette plaque-là, c'est elle qui va donc perturber le passage du sang, donc peut s'agrandir jusqu'à boucher complètement la lumière de ce vaisseau ou bien se rompre de façon brutale. C'est ce qui explique donc que cette douleur, donc cette angine de poitrine-là, survient soit à l'effort lorsque le passage est réduit et qu'il y a une augmentation des besoins donc, d'apport d'oxygène pendant cet effort-là ou bien survient au repos lorsque la lumière est complètement obstruée. Ça, c'est dans la majorité des cas.
D'accord.
Les autres situations, donc, ça peut survenir lorsqu'il y a une inflammation de ces vaisseaux-là, comme ça peut se voir dans les infections, comme la syphilis, par exemple, ou bien lorsqu'il y a une migration d'un caillou, par exemple, un patient qui a un cancer, donc, une partie va se détacher, former un caillou qui va migrer et obstruer ce vaisseau-là. Ou tout simplement, chez les malades qui prennent de la drogue, comme la cocaïne, ça peut entraîner un espasme de ce vaisseau et donner cette douleur.
Les personnes à risque, de l'enfant jusqu'à l'adulte?
En fait, c'est une maladie, ça peut affecter tout le monde, mais c'est plus les adultes. Comme j'ai dit, c'est des personnes généralement qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, donc qui sont soit hypertendus, soit diabétiques ou les deux en même temps, qui sont tabagiques ou bien qui sont obèses. Mm-hmm. Par exemple, lorsque l'IMC, l'indice de masse corporelle dépasse 29 kg par mètre carré, ou le taux de taille est supérieur à 88 chez la femme ou 93 chez l'homme. Donc, c'est chez ces personnes-là qui sont âgées, le plus souvent plus de 50 ans chez les hommes, plus de 60 ans chez la femme, qui sont le plus souvent affectées par cette maladie.
D'accord. Alors, comment se fait le diagnostic? Comment vous le posez, ce diagnostic, docteur?
Donc, le diagnostic, c'est essentiellement trois éléments. C'est vrai, dans certaines situations, on peut recourir à d'autres explorations, mais essentiellement, en fait, les caractéristiques de cette douleur. Et donc, c'est une douleur qui est ressentie à la poitrine sous forme, c'est comme s'il y a un noeud qui serre notre cœur. Donc, elle peut rester sur place ou bien s'étendre aux épaules, au niveau du cou, au niveau des mâchoires. Donc, et qui surviennent soit au repos ou à l'effort selon l'entité. Et cette douleur, c'est une douleur qui est intense. Donc, chaque fois que la personne ressent cette douleur, c'est important vraiment de se rendre dans une structure de santé pour la prise en charge. Maintenant, le deuxième élément, donc, c'est surtout l'électrocardiogramme. Donc, c'est un examen qui permet d'enregistrer l'activité électrique du cœur. Et comme on a dit que c'est lorsque le muscle cardiaque est privé d'oxygène, donc cette privation va engendrer des modifications qui vont être enregistrées sur cet électrocardiogramme. Et le troisième élément, c'est un peu les marqueurs de ce qu'on appelle la nécrose myocardique. En fait, c'est quoi? C'est que quand ce muscle est privé d'oxygène, donc c'est un peu comme l'équivalent d'un tuyau qui arrose les champs de salade. Donc, à un moment donné, si le flux donc n'est pas rétabli, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les champs de salade vont se faner. C'est la même chose pour le muscle cardiaque. Si le flux sanguin n'est pas rétabli, donc ce muscle va se faner, donc les cellules vont mourir et vont libérer des déchets. Donc, c'est des déchets enzymatiques, c'est si on peut les doser dans des sangs et ça peut nous aider au diagnostic. Et dans certaines formes, surtout la forme stable, on peut être amené à recourir à d'autres explorations comme l'échocardiographie ou d'autres tests d'ischémie.
Très bien. Alors, en termes de prise en charge, comment ça se traite?
Donc, la prise en charge, déjà, comme je le disais tantôt, c'est qu'une fois que le malade ressent cette douleur, il est très important et crucial vraiment de se rendre dans une structure de santé, parce que le délai entre le moment où il a commencé à ressentir la douleur et son contact avec un agent de santé et la prise en charge donc est très important. Ça va déterminer les modalités de prise en charge et ça va impacter sur le pronostic donc du patient. Donc, la prise en charge, déjà, c'est que la prise en charge donc, de l'urgence qui est là, dans les formes infarctées du myocarde, par exemple. Donc, là, il faut vraiment gérer l'urgence. Donc, et cette prise en charge enveloppe donc, un traitement médicamenteux qui va fluidifier le sang, diminuer le travail cardiaque et aussi des médicaments qui peuvent l'user, donc ces caillots, cet obstacle qui est créé. Et il y a une intervention, donc une modalité interventionnelle par la coronarographie avec dilatation, donc pour réperméabiliser donc ces vaisseaux qui est bouché, donc par ce qu'on appelle l'angioplastie. Donc c'est un peu ça pour ne pas rentrer dans les termes techniques.
D'accord.
Donc ça c'est la première phase. La deuxième phase c'est surtout par rapport donc à la prévention donc secondaire. C'est un patient qui vient de faire donc par exemple un infarctus du myocarde. Il peut refaire cet infarctus du myocarde. Donc il faut mettre donc en place des mesures pour prévenir la récidive. Et ça va, donc il faut traiter ces facteurs de risque cardiovasculaire là. Donc il faut arrêter le tabagisme. Il faut, s'il a un problème de cholestérol, il faut gérer donc cet cholestérol par des médicaments de régime. Il faut également donc diminuer le poids. Il faut contrôler sa tension artérielle, contrôler ses chiffres de la glycémie, donc c'est le diabète. Donc et une fois la phase aiguë donc passée, faire une réadaptation donc pour le reprendre à fournir des forces hein, pour autant ressentir donc la douleur. Donc c'est un peu ça la prise en charge de ces patients. Donc c'est le patient dans sa globalité qui doit être pris en charge.
Alors quels peuvent en être les risques à moyen ou à long terme, docteur Chalfo Mohamedou?
Donc le risque en fait qui peut recourir un patient qui consulte donc à retard, donc ou bien qui a souffert d'une prise en charge à retard ou d'une consultation à retard. Donc c'est surtout le risque, c'est surtout celui d'un infarctus du myocarde, parce que si il ressent cette angine dans la forme stable qui se vient à l'effort, s'il consulte et compose le diagnostic, donc on a le temps de le réperméabiliser. Maintenant si il ne consulte pas, ça va s'aggraver et il peut arriver que le patient consulte déjà en étant déjà en infarctus du myocarde en crise cardiaque.
Donc d'où l'importance de consulter dès les premiers symptômes.
Voilà. Donc il peut faire un arrêt cardiaque, il peut, ça c'est à la phase de vie, il peut développer une insuffisance cardiaque et il peut aussi faire une mort subite. C'est le cas de la plupart des patients qui meurent généralement dans leur lit, sans qu'on sache pourquoi. La plupart sont alertés des infarctus du myocarde, donc qui se donnent sous forme de mort subite. Donc c'est essentiellement donc ce risque-là, surtout de développer vraiment une insuffisance cardiaque qui est là et donc qui peut un d'importer donc l'espérance de vie du patient.
Parfait. Docteur Chalfou Mahamadou, je rappelle que vous êtes spécialiste en cardiologie. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation sur Médien.
Merci à vous.
Et c'est un entretien réécoutable sur notre site www.medien.com. Matin Famille.